Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Hitchcock 2. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Hitchcock 2, dont nous avons vu la dernière fois comment cette carrière exceptionnelle s'était déroulée. Il ne s'agit pas aujourd'hui ou la semaine ancienne de parler de film par film, mais d'essayer de trouver les thématiques qui apparaissent chez Hitchcock et qui sont particulièrement originales. Alors Hitchcock déteste le cliché, et cette haine du cliché s'est montrée en particulier dans La mort aux trousses. C'est une scène célèbre où Cary Grant se trouve en plein désert et un avion va se rapprocher de lui, essayer de le tuer. Alors qu'est-ce que dit Hitchcock à propos de cette scène ? Il a, je l'avais dit la semaine dernière, évoqué avec François Truffaut pas mal de scènes particulières. Et là, il dit la chose suivante. Voilà, quand il y a un film de gangster, un film de violence, tout se passe dans la ville. Alors on est dans la ville, on est dans le noir, une voiture noire arrive et une mitraillette sort et va tuer ou tirer sur le personnage. Donc le scénario habituel, c'est cela. Et Hitchcock dit, moi je mets tout sous le soleil. Tout sous le soleil. Donc le personnage arrive, il descend du bus et il se retrouve totalement isolé. On se demande ce qui peut se passer. La mort ne peut venir de nulle part puisqu'il est, encore une fois, isolé. Un personnage passe et va dire simplement « Tiens, cet avion va mettre des produits pesticides à un endroit où il n'y a pas de culture. » Et là donc, ça commence à montrer qu'il y a un problème. Et puis finalement, l'avion est là pour poursuivre le héros et il va essayer de le mitrailler avant de s'encastrer dans un camion qui arrive en face. Donc là, il y a une véritable volonté d'Hitchcock de construire une scène originale. Et si je le relève autant, c'est parce que ça symbolise toute la volonté, toute la permanence dans l'œuvre d'Hitchcock qui va essayer de montrer sous un autre angle une action. Alors, Hitchcock, quand il tourne, va faire des storyboards. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un storyboard ? Vous avez généralement des réalisateurs qui font un scénario avec les dialogues, avec les plans tels qu'ils seront présentés, et ensuite ils vont le filmer. Parfois, certains metteurs en scène laissent complètement tomber le scénario. Un exemple simple, Jean-Luc Godard qui part ensuite à l'aventure. D'autres réalisateurs, effectivement, font comme cela. Ils ont un scénario, ils ne le respectent pas. Tandis qu'Hitchcock fait un scénario très précis et il fait même un storyboard. Le storyboard, c'est une sorte de bande dessinée du film, dont on voit quels vont être les plans, la synchronisation et le dialogue, et tout est dessiné. Et Hitchcock dit, alors c'est peut-être un peu excessif, mais il dit, moi, quand j'ai fini le storyboard, mon film est fait. Le fait de le tourner ne change rien, il est fait antérieurement. Alors, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais c'est vrai que Hitchcock veut une précision millimétrée. Et donc, cette mise en place d'un storyboard permet d'arriver à ce résultat. Donc, originalité, recherche de la construction avant tout, et lien avec la musique. Alors, on avait écouté la semaine dernière la musique de Psychose, qui était vraiment extrêmement forte et qui allait bien avec le film. Hitchcock va travailler très directement avec certains musiciens dès la préparation du film. Et donc, il peut faire coller le film, le tournage du film avec la musique. Donc, tout cela aboutit à un assemblage unique avec cette volonté de mettre en place des situations, des scènes originales. Et parfois, il y a même une question qui apparaît alors même que le film ne semble pas aller dans cette direction. Je cite là Vertigo, on retrouvera la musique tout à l'heure, où les deux personnages principaux, James Stewart et sa compagne, se promènent dans les séquoias et soudain, Là, l'actrice qui est jouée par Kim Novak disparaît derrière un arbre. James Stewart s'affole et puis après ils vont se retrouver. Mais Hitchcock arrive à créer une atmosphère étrange dans une scène où normalement ça ne devrait pas exister. Alors je parlais de musique, on va écouter la musique du dernier film d'Hitchcock qui a été présenté en 1976 et qui s'appelle « Complot de famille ». Chez Hitchcock, il y a une ambiguïté dans les caractères, une ambiguïté dans les personnages. Et cela passe déjà par les personnages masculins, où on peut dire que le bon n'est pas si bon et le méchant peut être sympathique. Dans le cadre de ces « bons » entre guillemets qui sont parfois antipathiques, il y a les enchaînés, où Cary Grant est désagréable avec celle qu'il aime, Merman, Ingrid, et qui va se marier avec un nazi, tous les deux étant chargés de l'espionner. Pour quatre de l'espionnage, le héros va se tromper de victime. Il tue un innocent au lieu d'un espion. Dans Le Rideau déchiré, Paul Newman veut voler des secrets d'un savant, d'un vieux professeur sympathique, et il va essayer de le manipuler. Dans Frenzy, l'innocent a un physique de coupable. Dans Soupçon, Cary Grant est soupçonné d'empoisonner sa femme, et il y a une scène assez forte où il monte un escalier avec un verre de lait et le lait est lumineux. Alors en réalité, il avait obtenu ce résultat par un procédé original pour faire que ce lait concentre toute l'attention et fasse dire il y a peut-être la mort dans ce verre de lait. Alors quand on dit que le méchant est parfois sympathique, Hitchcock disait « Mieux le méchant est réussi, mieux est le film ». Sur quatre d'espionnage que j'évoquais tout à l'heure avec le héros qui tuait un innocent, il est avec une jeune femme qui va flirter avec un séduisant américain, sauf qu'en réalité, l'espion allemand, c'est ce séduisant américain. Dans La mort aux trousses que j'évoquais tout à l'heure, James Mason, qui est le, entre guillemets, méchant, est extrêmement attirant, et notamment pour l'héroïne, qui est aussi amoureuse de Cary Grant. Donc les enchaînés, j'en parlais tout à l'heure, le héros, ou plutôt le second rôle, le nazi, qui est interprété par Claude Rains, est à la fois pitoyable, et comme il est pitoyable, il a une dimension sympathique. Pour L'Inconnu Nord Express, on a une sorte de couple, Robert Walker qui est déséquilibré et qui est soumis à sa mère et qui veut tuer celle-ci, et à l'opposé, Farley Granger qui paraît être toujours entre guillemets le bon, mais qui ne l'est pas tout à fait. Alors, un des plus originaux films, c'est L'ombre d'un doute. Dans ce film-là, Joseph Cotten est quelqu'un qui a tué plusieurs personnes, plusieurs femmes, et il vient se réfugier dans une ville où il retrouve sa sœur. Et sa nièce est complètement admirative de son oncle, jusqu'à ce qu'elle comprenne petit à petit que c'est lui le criminel. Et un dernier élément qui est dans Lifeboat 1943, il y a un personnage qui est fascinant, cultivé, très bon navigateur, et c'est le nazi. On a critiqué Hitchcock parce que le portrait était trop sympathique. Donc, le personnage qui généralement représente le héros positif ne l'est pas toujours systématiquement, et le héros négatif peut avoir un élément sympathique pour le public. Alors, cette culpabilité partagée, on la voit dans L'Inconnu Nord Express, où effectivement, le personnage qui est un petit peu déséquilibré veut faire tuer sa mère, mais il veut aussi éliminer la femme de Farley Granger. Donc il veut faire un échange de meurtre qui fait que personne n'imaginerait qu'un individu totalement extérieur puisse avoir tué. Bon. Donc, ambiguïté. Alors, le plus fort ici, c'est la femme. Alors, la femme, qu'est-ce que souhaite Hitchcock ou qu'est-ce que aime Hitchcock ? Il aime la blonde froide à la sexualité torride. Il a dit lui-même que, toujours dans ses entretiens, quand il est dans une voiture avec une brune brûlante, il n'est pas étonné qu'elle lui saute dessus. Par contre, si c'est une blonde très froide, à ce moment-là, ça crée un suspense et ça crée un élément original. Donc, les meilleures blondes chez Hitchcock, c'est Ingrid Bergman, qui a joué plusieurs films, dans trois films. Surtout, celle qui a atteint les sommets dans L'Adoration d'Hitchcock, c'est Grace Kelly. Grace Kelly a tourné aussi plusieurs films, trois films avec Hitchcock. Il y a Eva Marissin qui joue dans La mort aux trousses. Et enfin, il y a Tippi Hedren qui joue dans Les oiseaux et Marnie. Donc, l'adoration de Hitchcock pour ce type de personnage le fait montrer sur une sorte d'obsession sexuelle. Et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Pour finir sur la volonté de rapport avec les acteurs ou pas, Hitchcock s'entend avec les acteurs qui suivent ses instructions et pas ceux qui vont s'interroger sur le personnage. Il y a ce qu'on appelle la méthode Actor Studio qui a touché Brando, Al Pacino, De Niro et qui a touché Paul Newman. Il fait jouer Hitchcock, Paul Newman dans un film Le Rideau déchiré. Et Newman veut appliquer la méthode en disant « Bon, alors le personnage, quand il était petit, qu'est-ce qu'il faisait, etc. » Et Hitchcock était particulièrement énervé parce qu'il dit « Bon, vous faites ça, et puis c'est tout. » Alors que Paul Newman était l'adepte donc, de la méthode de l'acteur studio où il fallait réfléchir sur le personnage. Donc, il a eu même cette remarque « Les acteurs, c'est du bétail, co. » Ce qui fait que Carole Lombard, qui a tourné avec lui « Joie matrimoniale », avait fait venir sur le plateau trois vaches en portant les noms des trois acteurs principaux. Alors, ça montre bien, effectivement, l'acteur, c'est du bétail, l'idée que Hitchcock a tout préparé et qu'il est sur l'application du storyboard avec simplement quelques éléments originaux, parfois, qui peuvent se glisser. Alors, Hitchcock, vous avez parlé de la période anglaise et la période américaine. La période américaine commence par Rebecca en 1940 et voici donc la musique de Rebecca.
Thank you. Last night, I dreamt I went to Manderley again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive. And for a while, I could not enter, for the way was barred to me. Then, like all dreamers, I was possessed of a...
Alors, pour comprendre le cinéma d'Hitchcock, il faut aussi dire un mot sur sa personnalité qui est particulièrement originale. Donc, il est d'abord un réalisateur connu. Je l'avais dit l'autre jour, il est comme Cecil B. DeMille, un réalisateur dont on va voir les films. Et il fait en quelque sorte une publicité à travers lui-même et il va parfois apparaître dans ses films. Alors sa personnalité explique quand même largement son œuvre. On peut dire que physiquement, Hitchcock, il ne le cacherait pas, il ne rejetterait pas ce terme, est un monstre. C'est un solitaire qui méprise le monde, mais qui respecte toujours les règles sociales à la lettre. Physiquement, donc, il fait 1m65 et il pèse sur un écart entre 120 et 140 kg. Tout enfant, il était déjà obèse et il souffre de cette apparence physique. Donc, il va se composer un personnage. Par exemple, Hitchcock s'habille toujours pareil. Il a un pantalon à la taille très haute, une veste qui est glissée sous la ceinture du pantalon, plutôt la cravate souvent glissée sous la ceinture du pantalon, un costume bleu marine, et donc il arrive toujours dans ce costume immuable, si je puis dire. Mais il se compose aussi un visage, un dialogue. Son visage est perpétuellement inexpressif, il va parler lent. Il va pousser cela à l'extrême. Alors en réalité, Hitchcock est quelqu'un d'intelligent, qui a une vivacité d'esprit énorme, mais il va se composer ce personnage lent, qui explique, qui discute. En particulier dans Alfred Hitchcock raconte, alors je ne peux pas évoquer tout ce qu'il a pu faire, mais Alfred Hitchcock présente, c'était une émission, ce qu'on appellerait aujourd'hui une série à la télévision, où se présentaient des affaires criminelles, et dans laquelle il intervenait au début et à la fin. Au moment du générique, il vient expliquer toujours avec son ton monocorde lent ce qui va se passer, et à la fin, il vient tirer en quelque sorte la morale de ce qui a pu se passer. Donc, création d'un personnage qui est appelé à devenir iconique, si je puis dire, et cette volonté donc transparaît par cette apparition dans les films. La première fois, il apparaît dans Les Cheveux d'Or, donc un film extrêmement ancien. Et petit à petit, il va apparaître, mais au début du film, assez tôt, pour éviter que les gens l'attendent. Donc, il apparaît rapidement. Et j'avais évoqué la semaine dernière, l'autre jour, mais ça m'amuse, donc je le répète, dans Lifeboat, tous les personnages sont dans un radeau de secours. Et il passe en étant sur un magazine avant et après, avant le régime et après le régime. Alors là, question principale chez Hitchcock, c'est l'obsession sexuelle. Le sexe est fondamental chez Hitchcock. Truffaut a bien connu Hitchcock et a parlé très longtemps avec lui pour faire ce livre. Hitchcock était un petit peu retardé en matière sexuelle et il va se marier à 25 ans avec Alma Reville, qui travaillait aussi dans le secteur du cinéma, monteuse et scénariste, et il s'est marié vierge à 25 ans, il n'a pas connu d'autres femmes. Donc c'est une situation qui le conduit à avoir des fantasmes sexuels, des objections sexuelles qui s'expliquent par tout son passé. D'ailleurs, il y avait une anecdote sur Pleasure Garden, une fille devait se jeter à l'eau, et Hitchcock voulait la pousser. Et on lui dit, mais non, elle peut pas aller à l'eau. Bon, alors on a expliqué à Hitchcock le mécanisme des cycles féminins sur lesquels il n'était pas très, très au courant. Donc, un obsédé qui n'assume pas cette obsession, sauf à travers les films. Donc, les scènes d'amour, plus exactement les scènes de baiser, sont très bien filmées. Mais elles donnent à l'écran un résultat assez fort. C'est le cas de La mort aux trousses où Cary Grant et Mary Sand sont très proches. C'est le cas dans Marnie de Tippi Hedren et Sean Connery. C'est le cas dans Les Enchaînés de Cary Grant et Ingrid Bergman. Ils sont l'un contre l'autre en train de s'embrasser et de se serrer. Et en réalité, la scène est impossible à tourner pour les acteurs. Quand je dis impossible, je veux dire très difficile. Parce qu'ils doivent pivoter sur leurs pieds, ils doivent aller d'un côté, de l'autre. C'est une, presque une torture. Mais à l'écran, ça donne un élément qui est assez fort dans le domaine de l'amour entre deux personnages. Donc, l'allusion au sexe, ou la référence plus directe au sexe, c'est cette situation que l'on retrouve chez Hitchcock, et encore une fois, de manière permanente, et on est renvoyé à ce fantasme permanent. Alors, il y a un film qui s'appelle Vertigo, Sueur froide, qui est un des sommets de l'œuvre d'Hitchcock. Certains considèrent que c'est son meilleur film, et dans lequel le personnage James Stewart veut recréer une femme dont il pense qu'elle s'est suicidée, et l'a façonnée comme un Pygmalion. Donc voilà cette musique de Vertigo, Sueur froide. Hitchcock, donc, le film policier, c'est un des films qu'il préfère. On a la mort, le meurtre qui reviennent, donc il y a l'obsession du sexe, l'obsession de la mort et du meurtre, et il va toujours essayer de mettre en place une manière d'accomplir un crime original ou d'avoir des scènes particulières au vu des manières de filmer de ses collègues, si je puis dire. Donc, pour simplement l'exécution du meurtre, il va utiliser le couteau, c'est l'homme qui en savait trop, psychose, bien sûr, chantage. Il y a l'étranglement, murder, frenzy, avec une cravate, dans frenzy. Dans le crime était presque parfait avec Grace Kelly, c'est les ciseaux. Il y a l'empoisonnement, enchaîné, amant du Capricorne. Et il y a, alors là je retiens cette scène parce qu'elle est comme beaucoup de scènes, telles celle de l'avion de mon retrousse particulière. Donc c'est le rideau déchiré, Paul Newman essaie de d'estorquer les secrets à un russe. Et il y a des personnes qui vont se rendre compte de son double jeu. Et à un moment donné, Paul Newman va tuer un personnage. Et il va le tuer en essayant de le faire entrer dans une cuisinière à gaz. Et cette scène s'étire. C'est-à-dire que Hitchcock veut montrer que finalement la mort est très difficile à donner et que... il y a presque une impossibilité de la donner à travers cette scène donc, de la cuisinière à gaz. Alors, un autre élément qui peut être étonnant, c'est le vide. Le vide, chez Hitchcock, déjà, c'est le prétexte du film. Alors, il dit que dans un film, le scénario est basé sur un MacGuffin. Le MacGuffin, qu'est-ce que c'est? C'est le prétexte de l'histoire. Ça peut être des documents secrets, ça peut être des bijoux, ça peut être n'importe quel élément. Et certains films culminent dans le vide. C'est-à-dire que les 39 marches, en réalité, il y a des documents qui ont été pris. Non, il n'y a même pas de documents. Le plan a été appris par cœur. Dans Une femme disparaît, c'est un air qui est joué au piano, qui conduit un message secret. Pour les enchaîner... C'est une bouteille d'uranium qui est dans la cave. Et le sommet, c'est la mort aux trousses. Donc ce film qui dure environ 2h30 a comme personnage Roger Turnhill, joué par Cary Grant. Et qu'est-ce qui se passe? Il est pris pour un autre personnage qui s'appelle Kaplan, qui n'existe pas. Et il vend des secrets d'État à ce personnage. En réalité, on a créé de toutes pièces cet espion pour manipuler des espions adverses. Et finalement, le MacGuffin, c'est rien. C'est rien, c'est-à-dire le personnage est pris pour une autre personne. Et il y a une scène qui est symbolique de ce vide. Le héros, donc Cary Grant, discute avec la jeune femme dont il est amoureux. Et elle lui demande comment il s'appelle. Et sur sa boîte d'allumettes, il y a ses initiales. Donc c'est R-O-T. Alors jusque-là, on pensait qu'il s'appelait Roger Turnhill. Et puis là, on voit zéro. En fait, O, c'est zéro. C'est-à-dire que c'est le vide absolu. Il est le vide, il est pris pour un autre et il est le vide. Donc c'est quand même extrêmement intéressant de voir la manière dont le MacGuffin repose sur rien, absolument rien. Dans le film Vertigo, il y a une volonté de recréer une personne. James Stewart croit qu'une personne est morte et il trouve une femme dont il croit que c'est un sosie. Et il veut recréer la personne qui est morte. Donc avec une précision, une sorte de morbidité à l'intérieur du film. Donc ces éléments relatifs à l'œuvre d'Hitchcock. J'ai parlé du sexe, de la mort, du vide. On pourrait parler aussi de la place de la nourriture. Parce que Hitchcock, il est quand même assez gros, ce qui veut dire qu'il mange bien. Et dans ces films, on retrouve la place de la nourriture, notamment dans Frenzy, où elle va jouer un rôle important. Donc tous ces éléments font que Hitchcock est vraiment, au XXe siècle, un des grands metteurs en scène. J'avais déjà évoqué Chaplin ou Ford. Et il fait partie donc de ceux qui ont marqué le siècle dernier par rapport à leur cinéma. « cinéma. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Tiphaine Lemen. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone.